Chapitre 6e, Cap de Bonne Espérance. Dès que nos observations astronomiques furent terminées, nous mîmes la voile par une brise carabinée de l'ouest qui nous poussa vite hors du goulet. Bientôt les vastes forêts s'effacèrent dans un lointain violâtre, le géant couché disparut sous les flots comme un hardi plongeur, et nous nous retrouvâmes de nouveau face à face avec les vents, le ciel et les eaux. La curiosité s'émousse comme tous les goûts, comme toutes les passions, il faut en user sobrement, et pour ma part, je ne suis pas trop fâché de dire adieu à la terre féconde d'Alvarez Cabral, si mollement interrogée par les Portugais d'aujourd'hui. Les stériles conquêtes des peuples sont une flétrissure plutôt qu'une gloire. Au lieu de mettre directement le cap sur Table Bay, pointe méridionale d'Afrique, nous allâmes chercher par une plus haute latitude les vents variables et nous laissâmes à notre gauche le rocher sacré, l'île de lave et le grand souvenir. Salut à Sainte-Hélène, salut aux trois saules qui pleurent sur le mort immortel cadenassé dans sa bière de fer. Nos pensées devinrent tristes et sombres. Nous reportions nos regards vers ce passé glorieux, si profondément gravé sur tant de gigantesques monuments, lorsqu'un bien douloureux spectacle vint encore nous frapper dans nos affections. Le récit de nos malheurs en est le baume le plus efficace, et il y a toujours des consolations dans les larmes. De tous les officiers de la corvette, Théodore Laborde était sans contredit le plus aimé et le plus heureux. Il comptait embrasser bientôt sa famille, qui l'attendait impatiente à l'île Maurice. Jeune, expérimenté, intrépide, il avait joué un beau rôle au glorieux combat d'Ouessant et à celui de la baie de Tamatave, où la marine française soutint dignement l'honneur de son pavillon. Laborde commandait le quart. La barre s'engagea. Il ordonna une manœuvre. En se baissant vers le faux pont, un vaisseau se rompit dans sa poitrine. Le lendemain, après notre déjeuner, il vomit du sang en abondance. Il se leva et nous dit d'une voix solennelle « À 8 jours d'ici, mes amis, je vous convie à mes funérailles. » L'infortune y avait lu dans les décrets de Dieu. « Oh, cela est bien horrible, » nous dit-il après les premiers symptômes. « Oh, cela est bien horrible de mourir, alors qu'il y a devant soi une carrière de péril et de gloire. » Et puis, ajouta-t-il, en nous tendant une main frémissante, « on a des amis qu'on regrette, une famille qu'on pleure, et la mort vient nous saisir. N'est-ce pas que vous parlerez de moi quelque temps encore? Promettez-le-moi, mes bons camarades, la tendresse est consolatrice. » Et j'ai besoin de consolation, moi. Mon pauvre père qui m'attend là, tout près, dites-lui combien je l'aimais. Merci, docteur, merci. Demain. Demain, rien ne me réveillera. Si je me retourne, je meurs à l'instant. Et tenez, je souffre trop, je veux en finir. Et adieu, adieu, mes amis. Il se retourna et vécut encore un quart d'heure, pendant lequel il nous appela tous près de lui. Le soleil levant frappa d'un vif rayon le sabord qui s'ouvrait près de la tête de Laborde. « C'est le coup de canon, » dit-il en fermant ses rideaux. Le lendemain, les vergues du navire étaient en pantaine, une planche humide débordait le bastingage, le silence de la douleur régnait sur le pont. L'abbé de Coëlaine fit tomber une courte prière sur la tôle à voile qui enveloppait un cadavre, et le navire se trouva délesté d'un homme de bien et d'un homme de cœur. Après une quarantaine de jours d'une navigation monotone, sans calme ni tempête, la houle devint creuse et lente. De monstrueuses baleines lançaient à l'air leurs jets rapides, et les observations astronomiques, d'accord avec celles des matelots, qui n'étudient la marge du navire que sur les flots, nous placèrent en vue du cap de Bonne-Espérance. Là-bas, l'Amérique, ici, l'Afrique, et tout cela sans transition. C'est ainsi que j'aime les voyages. Voici la terre vers laquelle la houle nous a poussés pendant la nuit. Quel contraste, grand Dieu! Au Brésil, des eaux riantes et poissonneuses. Ici, des flots plombés et mornes. En Amérique, des forêts immenses, éternelles, toujours de la verdure. En Afrique, des masses énormes de rochers creusés et déchirés par une lame sans cesse turbulente. Et point de verdure à ces rocs, point de végétation au loin. C'est un chaos immense de débris et de lave qui se dessine à l'œil en fantôme menaçant. Au Brésil, partout la vie, au Cap de Bonne-Espérance, partout la mort. À la bonne heure, voilà comme j'aime les voyages. Oh, comme le Camoens a poétiquement placé son terrible épisode d'Adamastor sur un de ses mornes muets. au pied desquels gisent tant de cadavres de navires pulvérisés, que de cris ont étouffé, que d'agonies ils ont vues depuis que Vasco de Gama baptisait cette pointe d'Afrique le Cap des Tempêtes. Une heure après le lever du soleil, la brise souffla fraîche et soutenue. Nous cinglâmes vers Table Bay, et nous laissâmes tomber l'ancre au milieu de la rade sur un fond de roches et de coquillages brisés. Nous voici au centre de la rade du Cap, et je vous défie de rester froid en face de ce grave et sauvage panorama qui se déploie à l'œil effrayé. Là, à droite, des masses gigantesques de lave noire, nues, découpées d'une manière si bizarre qu'on dirait que la nature morte de cette partie de l'Afrique s'était forcée de prendre les formes de la nature vivante qui bondit dans ces déserts. C'est la croupe du lion, sur laquelle flotte le pavillon dominateur de la Grande-Bretagne. Puis le sol, s'abaissant petit à petit, se redresse tout à coup et forme ce plateau large, uni, régulier, qu'on a si bien nommé la table, du haut de laquelle les vents se précipitent avec rage vers l'océan, qu'ils soulèvent et refoulent, lui enlevant, comme des flocons d'écume, les imprudents navires qui lui avaient confié leur fortune. « La nappe est mise, » disent les marins, sitôt que des nuages arrondis, partant de la tête du diable, opposés à la croupe du lion, se heurtent, se brisent, se séparent, se rejoignent sur le sommet du plateau. « La nappe est mise, coupe les câbles et au large !» Efforts inutiles, il faut des victimes à l'ouragan, et lorsque, sur 10 navires à l'ancre, un seul peut se sauver, c'est que le ciel a été généreux. C'est que la tempête a voulu que nous apportions au loin des nouvelles du désastre. La tête du diable est séparée du plateau principal par une embrasure haute et étroite, d'où s'élancent les rafales meurtrières, heurtées par les pitons plus rapprochés qu'elles ont déchirés dans leur course. Jugez des phénomènes météorologiques dont cette rade de malheur est le théâtre. J'ai vu deux navires, l'un entrant, l'autre sortant, presque vergue contre vergue, courir tous les devants arrière. Quel choc, quel désordre, quel fracas, au moment où ces deux vents impétueux viennent à se heurter, à se combattre, à se disputer l'espace. À gauche de la tête du diable, le terrain se nivelle, se plonge dans les solitudes africaines, décrit une vaste courbe vers la rivière des éléphants, et à 9 lieues de là, se rapproche de la côte et se redresse encore pour la défendre contre les envahissements de l'Atlantique. À égale distance, à peu près de la croupe du lion et de la tête du diable, au pied même de la montagne de la table, est bâtie la ville du Cap, fraîche, blanche, riante comme une cité qu'on achève et qu'on veut rendre coquette. Ce sont des terrasses devant les maisons et des arbres au pied de ces terrasses dont les dames font leur promenade de chaque jour. Ce sont des rues larges et tirées au cordeau, propres, aérées. C'est partout un parfum de la Hollande, par qui fut bâtie cette colonie jadis si florissante et qui a changé de maître par le droit de la guerre. Sur la gauche de la ville et en face du débarcadère et d'une magnifique caserne est un vaste et triste champ de Mars, dont les pins inclinés, presque jusqu'au sol, attestent le fréquent passage de l'ouragan. Cela est douloureux à voir. Plusieurs forts, tous bien situés, défendent la ville, mieux protégés encore par la difficulté des atterrissages. En temps de paix, la garnison est de 4 000 hommes. En temps de guerre, elle est proportionnée aux craintes qu'on éprouve. Mais ce n'est pas de l'Europe que partira le coup de canon qui arrachera la colonie aux Anglais. C'est de l'intérieur des terres. C'est du pays guerrier des Cafres et des autres peuplades intrépides qui saignent comme de vastes réseaux la ville et les propriétés des planteurs, sans cesse envahies et saccagées. Il y a là, dans l'avenir, un jour de terreur et de deuil pour l'Angleterre. Je ne suis point de ceux qui, en arrivant dans un pays curieux et étudié, se hâtent de demander ce qu'il y a de remarquable à voir et s'y précipitent avec ardeur. Ce que j'aime surtout dans ces courses lointaines, c'est que les esprits superficiels dédaignent ce que le petit nombre choisit de préférence pour le lieu de ses méditations. Ce n'est pas l'Europe que je viens chercher au sud de l'Afrique. Une montagne aride et sauvage est là sur ma tête. Elle aura ma première visite. Qui sait si demain l'ouragan qu'elle vomira ne nous forcera point à une fuite précipitée. Escaladons la table avant que la rafale ait mis la nappe. Les chemins qui, par une pente insensible, conduisent à travers champs jusqu'au roc, sont coupés de petites rigoles où une eau limpide coule avec assez d'abondance. Mais ici, toute végétation s'efface et meurt. La montagne est rapide dès sa base, et l'étroit sentier qui garde, presque imperceptible, la trace des explorateurs, se perd bientôt au milieu d'un chaos de roches osseuses qui disent les dangers à courir. Je comprends toute indécision avant la lutte, mais une fois en présence du péril, rien ne me ferait faire volte-face. J'avais un excellent fusil à deux coups, deux pistolets, un sabre, plus une gypsière, un calepin et mes crayons. C'était assez pour ma défense. Qui sait si les tigres et les cafres ne reculeraient pas en présence des mauvais croquis d'un artiste d'occasion? Mais à tout hasard, je m'adresserai d'abord à mon briquet et à mes autres armes. Ce sont, je crois, de plus sûrs auxiliaires. La route devenait ardue au milieu de ces réflexions que je faisais sûrement à haute voix, et un soleil brûlant épuisait mes forces sans lasser mon courage. J'escaladais toujours le rapide plateau et je faisais de fréquentes haltes derrière quelques roches, car peu m'importait d'arriver tard au sommet pourvu que j'y pusse arriver. La chaleur était accablante. Le thermomètre de rue au mur au nord, à l'ombre et sans réfraction, marquait 30°7, et dans mon imprévoyance, je n'avais emporté qu'une gourde pleine d'eau que j'avais déjà vidée, sans que le murmure d'un ruisseau me donnât l'espoir de la remplir de nouveau. Mais je n'étais pas homme à m'arrêter devant un seul obstacle, et je grimpais haletant et épuisé. À peu près aux deux tiers de la route, dans un moment d'inaction et de repos, un éboulement se fit entendre près de moi. J'écoutais, inquiet. Un second éboulement suivit de près le premier, puis un troisième à égale distance. Point de souffle dans l'air. La nature avait le calme de la mort, et je dus comprendre que tigre ou nègre marron, il y avait à ma portée un ennemi à combattre. J'armai mon fusil, dans lequel j'avais glissé deux balles, et je me tins prudemment dans l'espèce de gîte que je m'étais donné. Mais, presque honteux de ma prudence, je tournai doucement le rocher protecteur, et j'avançai la tête pour voir de quel côté venait le danger. « Au large !» me cria une voix, qu'on cherchait à rendre sonore. « Au large, vous êtes mort !» Un homme, en effet, m'avait mis en joue, mais un de ces bonhommes qu'on juge au premier coup d'œil ne pas être fort redoutable, un de ces ennemis qui ne demande pas mieux que de vous tendre la main. « Au large vous-même !» lui répliquai-je en lui présentant un de mes pistolets. « Que me voulez-vous ? Rien !» Je m'en étais douté. Et nous fîmes tranquillement quelques pas pour nous rapprocher. Il avait un singulier costume de voyage, ma foi. Un tout petit chapeau de feutre fin et coquettement brossé, se posait légèrement sur une de ses oreilles. Son cou laissait tomber avec grâce une cravate de soie nouée à la colin. Un imbible de Staub ou de Lafitte, tout neuf et tout pointu, selon la mode du temps. Un gilet chamois, des gants jaunes et propres, un pantalon de poil de chèvre, de fins escarpins de Sakoski et des bas de soie, complétaient sa mise. On eût dit un fashionable de Tortoni de retour d'une promenade au bois dans son léger Tilbury, et je riais de son élégance, en même temps qu'il riait, lui, de l'étrangeté de mes vêtements autrement façonnés. De gros souliers, des chaussettes, un large pantalon de toile, une chemise bleue, une veste, point de bretelles, point de cravate ni de gants, un immense chapeau de paille et mes armes, voilà l'homme en présence duquel se trouvait mon rude antagoniste. Ajoutez à cela que sa voix était faible et sa figure délicate et rosée. Moi, j'ai l'organe assez dur et le teint au niveau de mon organe. Après ces premières investigations muettes, notre conversation continua et je repris le premier la parole. « Savez-vous que vous m'avez fait presque peur ?»« Savez-vous que vous m'avez fait peur ?»« Tout à fait. »« Êtes-vous rassuré maintenant ?»« Mais oui, et vous ?»« Moi, pas encore, vous êtes effrayant. » Et je partis d'un grand éclat de rire. « Où allez-vous donc, si joliment vêtu ?» lui dis-je après m'être assis presque à ses pieds. « Ici, monsieur, on ne peut aller qu'en haut ou en bas, je vais en haut. » Et moi aussi, en route. Je pris son bras et nous nous aidâmes dans notre laborieuse excursion. Le brick qu'il avait conduit au cap venait de mouiller en pleine rade le matin. Il était commandé par le capitaine Hussard et allait faire voile sous peu de jours pour Calcutta. Là se bornèrent d'abord les confidences de mon compagnon de voyage qui entrecoupait son récit par de profonds soupirs et des cris de douleur que lui arrachaient les pointes aiguës des rochers. « Eh, monsieur, l'on ne se met pas en marche pour un pareil voyage avec une chaussure de balle, » lui disais-je à chacune de ses lamentations. « Vous deviez vous douter que la montagne ou la table n'avait ni tapis moelleux ni dalle polie. Vous allez sans doute à Calcutta pour vous faire traiter de la folie. « J'y vais comme naturaliste, » me répondit-il, « et j'y suis envoyé par le roi. » Cependant, nous avancions toujours, et les difficultés devenaient plus grandes. Mon compagnon de voyage me demandait souvent grâce, et d'une voix souffroteuse me suppliait de ne pas l'abandonner. « Allons, courage !» lui criai-je quand je l'avais devancé. « Courage, nous arrivons !» Voilà 2 heures qu'on m'en dit autant. « Courage, m'y voici !» Quelques instants après, nous fûmes sur le plateau. Le premier, essoufflé, brisé, mais debout, le second, étendu sur le pic, à demi-mort. Rien au monde n'est imposant comme le tableau sur lequel on plane alors. Tout ce que la nature a de grave, de majestueux, de poétique, de terrible, est là, sous vos pieds, à vos côtés, autour de vous. La mer et ses navires, une ville et ses brillants édifices, des montagnes rudes et sauvages, et des déserts immenses où l'œil plonge dans un lointain sans bornes. Nous nous plaçâmes debout sur la pierre la plus élevée du plateau, appelée tombeau chinois, et fiers de notre conquête, nous retrouvâmes en nous asseyant une gaieté qui nous avait souvent fait défaut dans la lutte. « Je ne sais pourquoi, monsieur, me dit mon nouvel ami, vous ne m'avez pas encore dit votre nom.
Pourquoi ne m'avez-vous pas dit le vôtre ?
J'entendais votre confidence et pourtant je crois n'en avoir pas besoin.
Comment cela ?
Il me semble que je vous ai vu, que je vous connais. Ma foi, je faisais l'instant même et en vous regardant une réflexion semblable à la vôtre.
Venez-vous de Paris ?
Oui, et je fais le tour du monde sur l'Uranie. N'avez-vous pas dîné quelques jours avant votre départ chez M. Cuvier ?
Oui.
Vous étiez presque chez moi ? Je suis le fils de sa femme. Monsieur Duvauchel ?
Monsieur Arago ?
Et nous nous embrassâmes en frère. Maintenant que nous pouvons nous tutoyer, nous allons manger un morceau.
J'allais vous le proposer.
Je me meurs de faim.
Et moi donc ?
Et si un lion ou un tigre vient nous déranger, nous l'inviterons. Il n'acceptera pas.
Voyons.
Ouvrez, ouvrez votre gypsière, poursuivis-je.
Et vous la vôtre, qu'avez-vous ?
Hélas, il ne me reste qu'un biscuit. Et à moi une pomme, partageons.
Ainsi fut fait.
Avez-vous au moins un peu de vin ?
Pas une goutte.
Et vous, avez-vous de l'eau ?
Pas une larme.
Je penserai souvent à votre invitation, mais on dîne mieux chez votre beau-père au jardin des plantes de Paris. Après une demi-heure d'intime causerie, nous redescendîmes la montagne. Et pour arriver plus vite, nous nous laissions glisser sur les cailloux et nous parcourions, quelquefois d'un seul jet, d'assez grandes distances. Mes gros souliers tout percés me dirent adieu au bas de la montagne. Mes vêtements en lambeaux me forcèrent d'attendre la nuit avant d'entrer dans la ville. Quant à Duvauchel, il ne possédait plus ni habits, ni bas de soie, ni souliers, ni chapeau. Le fashionable avait pris le costume du cafre. Mais il avait gravi la montagne de la table. Hélas, l'ardent naturaliste est mort à Calcutta il y a 2 ans à peine. Les voyages sont dévorateurs.